J'ai bon espoir que cette lutte-là du 10 septembre, elle est inventive, elle est nouvelle, elle est hybride. Et on va y arriver, on va y arriver. Abattez la citadelle.
Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, tu l'as dit Loumi, on est dans un moment particulier politique, on est entre deux mobilisations sociales, celle du 10 qui est un petit peu protéiforme, assez intéressante à analyser, et celle du 18, un peu plus classique à l'appel de l'intersyndicale, et au milieu de tout ça, la nomination d'un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, et non, ce n'est pas Olivier Faure qui... Ce n'est pas Olivier Faure qui a été nommé Premier ministre, c'est fou, la tension était à son comble.
J'y croyais, hein.
Ah ouais, j'en y croyais tous. Mais Jdaline, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses qu'Emmanuel Macron essaye de gratter du temps ?
Bah en fait, je ne vois que cette solution parce qu'on sait tous et toutes que Lecornu est dans la droite ligne de Barnier, de Bayrou. On sait très bien que ça ne va absolument rien changer. Mais du coup, j'avoue que je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi est-ce qu'il a été nommé pour faire exactement la même chose que les autres. Tout à l'heure, je regardais un sondage qui disait que Sébastien Lecornu obtient la confiance de seulement 34% des Français et les journalistes s'en étonnaient en se disant « Mais tiens, mais c'est étrange, pourquoi est-ce qu'il arrive avec si peu de confiance ?» Et à aucun moment, dans tous les reportages que j'ai regardé, les journalistes se disaient, mais peut-être c'est parce qu'en fait il n'est pas issu des urnes, peut-être que c'est pas le bon Premier ministre, pas issu du bon clan. Vraiment, je me suis questionnée, quoi. Et ce sondage qui arrivait de nulle part, voilà, j'arrive pas à comprendre le move là d'Emmanuel Macron dans la période. Tu comprends, toi, Emilio ?
Non, alors je le comprends, oui, parce que le mec il veut pas lâcher le pouvoir, il défend son bilan. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Sébastien Lecornu nous a fait un cadeau juste avant de monter sur scène. Il a donné une interview à la PQR où en fait il a enfin parlé parce que le Premier ministre il avait toujours pas parlé et donc il a annoncé ses premières mesures. Alors attendez, on va faire peut-être un petit référendum à l'Agora. Le premier truc, on va voir si ça vous va, c'est il renonce à supprimer les deux jours fériés. Voilà, juste il renonce.
On en est là, quoi.
Ouais. Et il renonce à une deuxième chose, c'est il renonce à rouvrir le conclave. Donc, a priori, il va pas vraiment parler à la gauche, là.
Non, il a pas parlé.
On le savait déjà, c'est pas très original. Il promet des ruptures sur le fond, je cite. Des ruptures sur le fond. Alors, j'ai noté, Bayrou, lui, voulait faire un chemin inédit. C'est le même bullshit sémantique où ils nous font croire que c'est de la nouveauté. Et Barnier, lui, il voulait faire de la politique autrement. Il promettait déjà des ruptures, donc on sait déjà ce qu'il faut attendre. Des ruptures de Sébastien Lecornu. Et donc, bah, a priori, je pense que vous le voteriez la confiance, vous, de Lecornu ?
À mon avis, il ne va pas la demander. Je peux me tromper, déjà que le précédent m'a surpris en la demandant, mais à mon avis, il ne va pas la demander, la confiance. Est-ce que Sébastien Lecornu a les moyens de faire quoi que ce soit d'un point de vue politique, compte tenu de la composition de l'Assemblée qui n'a pas changé depuis deux premiers ministres qui se sont fait jarter ? Loumi.
Ouais, non, moi j'allais dire, je trouve ça assez épuisant. Je pense qu'on est tous très fatigués.
On est saoulés.
Nous qui faisons la critique média, à chaque fois, en fait, d'avoir des discours pas possibles. C'est ce qu'on fait encore là maintenant. Hein. Mais c'est assez épuisant d'être toujours en train de commenter la personnalité d'un nouveau Premier ministre ou d'ailleurs de beaucoup de personnalités qui finalement font exactement les mêmes politiques. Là-dessus, comme tu viens de le dire, il n'y a rien qui change en réalité, mais on va commenter pendant des heures et des heures et des heures tel Premier ministre comme si c'était un événement, alors qu'il n'y a rien qui bouge. Et on sait très bien qu'on va toujours avoir Retailleau, on sait très bien qu'en gros, tout ce qui nous pose gravement problème, ça va rester et que ça, on ne pourra pas le changer. Quoi.
Donc, Darmanin, c'est même permis de dire qu'il ne voulait pas changer.
Moi, c'est quelque chose qui... Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal, en fait, de ce que toutes les... Tout l'espace que ça prend, en fait, et ça nous fait perdre beaucoup de temps, en fait. Nous,
ça.
Politiquement, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire, et on passe beaucoup de temps à parler de ça.
Si vraiment l'état d'esprit, c'était de faire une rupture, déjà, tu nommes pas Lecornu. Non, mais Lecornu arrive, le mec dont on sait qu'il est un des mecs dans les dîners avec Thierry Solers, avec Le Pen, etc. Moi, dès que j'ai entendu, il va faire de la rupture, pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond, je fais « Ouh là 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 !» On part vers une rupture en mode plutôt facho, en fait. C'est ça, la rupture. T'as le RN. Bah ouais. T'as le RN qui dit « Moi, je n'accepterai de voter qu'un budget RN. » Bon, écoute, les cartes sont sur la table. La majorité à l'Assemblée nationale... Bon, l'Assemblée nationale, elle bouge pas. Donc, à mon avis, les tours de claquettes, là, avec le PS... C'est histoire d'eux.
Tu penses ?
Mais oui, je pense qu'eux-mêmes ne pensent pas accorder grand-chose au PS. En fait, ils sont en train d'essayer de rejouer le macronisme
en redisant « Ah mais nous, on va rassembler les raisonnables des deux bords. Mmh. » Mais ça fait 7 ans que vous faites ça. Ça fait 7 ans que vous essayez de rassembler des mecs. Alors ouais, vous allez peut-être choper un que vous n'aviez pas eu, un Pokémon, que un Yannick Jadot que vous n'aviez pas encore eu jusque-là. Des débauchages individuels. C'est peut-être vous allez en avoir 2-3.
Ils l'ont déjà fait avec Rebsamen et Méadel.
Mais voilà, mais à chaque fois, ils en rechopent 2-4 qui se disent « Ah bah au moins, j'aurais été ministre. » Ouais, super. Mais le fond de la politique, c'est le même, c'est-à-dire on coupe les deux bords de l'omelette et on continue à faire la politique pour les riches au milieu. Après, je sais qu'on parlera de la taxe Zucman, il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais il est peu probable qu'on n'ait pas la taxe Zucman et que la rupture soit une rupture sur eh ben, on va ce que Bayrou avait commencé à dire avant. Hein. L'AME, on pourrait commencer à en parler, de l'aide médicale d'État pour les réfugiés, pour les je sais pas quoi. Bayrou avait commencé à lâcher du lest là-dessus, etc. Donc je pense que le cornu, le mec qui fait les dîners secrets avec Marine Le Pen, c'est là-dessus qu'il va lâcher sur le fond. Et en même temps, en gros, c'est le macronisme à nu comme à poil devant, son seul salut, c'est la non-censure du RN. Il donnera rien au PS. Même si le PS est prêt à se foutre à genoux pour je ne sais quoi, il aura rien. Et on l'a déjà vu la dernière fois.
Mais du coup...
Et la dernière fois, il a eu un conclave. Un beau conclave, hein. On s'en rappelle du conclave. Et il s'est dit, on a eu quelque chose, on a eu un conclave. Mais vous voyez bien, il vous balade et c'est humiliant pour le PS. Je trouve que c'est vraiment humiliant pour le PS de continuer. Et après, je sais qu'il y a eu Olivier Faure tout à l'heure, j'ai écouté, qui disait, non, mais nous, si on est là, c'est pour faire un gouvernement de gauche. Il y aurait... Est-ce qu'il a été clair sur le fait qu'il n'y aurait pas de macronisme dans son gouvernement de gauche?
Ça, il le dit, c'est hors de question. Ils disent que c'est un...
Donc, c'est hors de question, clair. Olivier Faure.
De quoi?
Donc, il n'aura pas quoi que ce soit.
Non, mais de toute façon, ils n'ont jamais cru, hein, en vrai.
Bah,
en
c'est
vrai,
ce qu'on...
Ils ont toujours pensé qu'il fallait réclamer, parce que c'est ce qu'ils réclament depuis la fin des législatives.
C'est
Macron
ce qu'on
m'a dit, n'a pas respecté le résultat des urnes. Et donc, maintenant, ils sont obligés de dire la même chose. Mais en réalité, ils ne le veulent pas vraiment. Il suffisait de croiser deux socialistes qui soient en dehors d'un micro à la télévision pour qu'eux entendent. Non, mais surtout, s'ils nous nomment, on est vraiment dans la merde, parce qu'en plus, il faut gérer le déficit. Et comme ils ne veulent plus gouverner avec LFI, ça veut dire qu'il y a 75 députés de moins à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, ça veut dire qu'à la fin, ils font rien.
Je sais, j'ai fait comme Thomas Legrand, j'ai pris des cafés avec des gens qui m'ont dit, comme toi, bon, en fait, on ne sait pas où on va, il est peu probable qu'on soit nommé au PS, voilà. Donc, un nouveau tour de piste, mais à mon avis, là, la seule planche de salut, c'est un truc plus franc avec le RN.
Tu penses ?
Mais bien sûr.
Pourtant, le RN n'a pas l'air chaud pour accorder sa confiance à Le Cornu.
Bah, il fait monter les enchères. Parce que, et là, je trouve que le petit système médiatique, le petit ronron, il est autour du fait que, ah, ils aimeraient bien débaucher du PS pour faire un peu de gauche, pour faire un peu de l'ouverture. Mais ça va se finir, comme Barnier, comme Bayrou, par un truc qui tient surtout par le RN. Donc, c'est la phase finale du macronisme, la phase terminale. Enfin, c'est glauque, ce qui nous arrive, c'est glauque.
Mais le truc qui change quand même depuis l'été, depuis que Macron est réarmé sur la dissolution, c'est que le RN, en fait, ils veulent foutre le bordel pour pouvoir soit avoir une dissolution, soit une démission de Macron, parce qu'ils veulent pas la destitution, ils disent qu'ils sont trop respectueux des institutions. Ça, c'est pour mettre des taquets à LFI. Mais en gros, le RN, c'est ça qui change la donne pour Macron, c'est qu'en fait, il a plus personne vers qui vraiment se tourner. Parce que Le Pen, elle, veut déposer son recours au Conseil constitutionnel pour pouvoir être candidate le plus vite possible. Donc, a priori, même Le Cornu, je suis même pas sûr qu'il fasse vraiment monter les enchères. Pour l'instant, Le Pen, elle a donné 2-3 lignes rouges. C'est des trucs qui sont inacceptables qui apparaissent pour l'instant inacceptables pour Le Cornu. On verra comment ça évolue.
En tout cas, si ça saute pas, surtout, ce sera à cause du RN et grâce au RN.
Surtout, c'est Macron qui se retrouve tout seul au centre maintenant. En fait, tout le monde a bien compris que le problème de la situation politique se trouvait à l'Élysée. Donc, il faut en tirer les conséquences.
Macron, démission.
Les gens sont chauds pour te suivre, Usul. Tu parlais de la taxe Zucman tout à l'heure. Alors, je rappelle que la taxe Zucman, il s'agit de prélever à hauteur de 2% les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Et en fait, ça concernerait seulement 1800 foyers fiscaux en France. Ça rapporterait jusqu'à 20 milliards. Et évidemment, le centre, la droite s'y sont opposés. Est-ce que la gauche a raison d'en faire un totem? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut porter? Parce que là, pour pas tomber dans la politique politicienne, Loumi, à quel point est-ce que cette taxe Zucman, ça doit être quelque chose d'important ou pas dans la période?
Mais justement, je trouve que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait par rapport au PS, etc. En fait, la taxe Zucman, donc, c'est très bien, mais effectivement, c'est 2%. Donc on réclame des miettes. Donc c'est vraiment, je trouve qu'il y a un côté qui est humiliant aussi, qu'on nous refuse de nous donner, que ce soit 2%. Et c'est Zucman lui-même qui avait dit sur Mediapart il y a quelques temps, mais le communisme, 100%, en fait, c'est, on leur demande 2% et ils sont foutus de nous dire que non, c'est humiliant, il faut qu'on aille chercher beaucoup, beaucoup plus, et c'est, là, c'est pas possible, quoi.
En même temps, je suis curieux d'entendre ce que vous avez à en dire, mais j'ai l'impression que l'attaque Zucman a quand même réussi à percer dans le système médiatique,
oui.
Ce qui n'est pas évident, ah bah, on en parle,
oui,
Zucman
forcément.
Est invité, etc.
Ils ont l'impression qu'ils négocient quelque chose, mais c'est pas, qu'est-ce que c'est, enfin, c'est au bout d'un moment. Alors oui, c'est intéressant que ça arrive, mais comment on ose nous dire non pour 2%, enfin, c'est quand même ça que je trouve assez incroyable, quoi.
Emilio ?
Mais en fait, pour aller plus loin par rapport à ce que tu viens de dire, Lomich, effectivement, c'est peanuts quand même, l'attaque Zucman, juste sur si on prend un patrimoine à 100 millions d'euros, le rendement moyen de ce patrimoine, c'est entre 6, 7, voire 8%. Si on en prend 2, c'est-à-dire que ces mecs, ils continuent encore à s'enrichir, même si on leur prend que 2%. Et en fait, le problème, c'est que ça, quand même, c'est ça qui cristallise le débat public. On parle de 15 à 25 milliards d'euros. C'est rien du tout. On est passé en 20 ans des 500 plus grosses fortunes françaises qui avaient 200 milliards d'euros. Ils sont à 1200 milliards aujourd'hui. Donc, et même 25 milliards, si on prend la fourchette haute, c'est quand même pas grand-chose. Mais en réalité, c'est que le débat médiatique aussi, il se cristallise autour de ça, parce que ça les arrange de focaliser sur un truc assez petit, finalement. Parce que quand on parle de ça, on parle pas de nationalisation, par exemple. Mmh. On n'entend plus parler de la nationalisation d'ArcelorMittal, par exemple. Alors que c'est quand même autre chose, c'est quand même un autre rapport au capital. Et il suffit de regarder ce qui se passe sur les plateaux télé. Je sais pas si vous vous souvenez, à Baxit, au mois de... avant l'été, on a reçu Amélie de Montchalin, la ministre du budget.
Oui. Ah oui.
Voilà. Ah, non, pardon, ministre démissionnaire du budget. Et en fait, on l'avait mis en difficulté assez vite parce que, justement, elle n'arrivait pas à justifier le fait qu'il cédait absolument au chantage des ultra-riches qui menaçaient de partir. Et donc, ils sont comme des cons, mais pour autant, sur les plateaux de télé, les Bruno Jeudy, les Rutel Krief, les Franz-Olivier Gisbert et compagnie, quand on les écoute, eh ben, voilà, on avait Patrick Martin hier. Et ben globalement, c'est les mêmes éléments de langage, alors qu'on sait que tout ça est faux. Nous, on est des matérialistes. On part des faits. Les ultra-riches, c'est une étude d'une agence qui est rattachée à Matignon. Les ultra-riches ne partent pas dans des proportions importantes. Donc, on pourrait même aller plus loin quand même que 2 petits pourcents. Mais pourtant, c'est là-dessus que ça tient. Et donc, on parle de chaînes d'information en continu. C'est des chaînes de désinformation en continu, en fait, où on nous sert le même catéchisme libéral en permanence. Et c'est ça qui aseptise, en fait, le débat économique. L'économie ne sort pas du champ démocratique. Il y a eu des élections, et donc, ils sont tenus de respecter les autres. Mais pourtant, c'est le seul moment où, en fait, comme ils se pensent dans le cercle de la raison, en excluant tout le monde, eh ben, voilà, ils excluent de fait les choix économiques du champ démocratique. Et ça, c'est une honte.
Usul,
ouais.
Toi, t'as vu des traitements médiatiques de l'attaque Zucman qui t'ont énervé, je crois.
Oui, non, mais globalement, ça m'énerve. Mais comme tu l'as dit, le communisme, c'est on leur prend 100%. Mais même au-delà d'une certaine tranche, il ne devrait pas y avoir deux multimilliardaires. C'est-à-dire qu'on est en train... Non, mais... J'ai envie de dire... Les multimilliardaires nous amènent la guerre, là, comme la nuée porte l'orage, je sais plus quoi, là... Mais vous voyez où ça nous conduit, un pays dans la main des multimilliardaires. Ça nous conduit déjà, ça nous conduit à des Trump, à des machins, etc. C'est-à-dire que le capitalisme, on aurait envie de dire agonisant, mais il est pas agonisant. Il va très bien. Ces gens-là vont très bien et ils veulent que leur modèle se perpétue. Ils savent très bien qu'ils ont tout intérêt à financer ce qu'ils financent, notamment dans la fabrique de l'opinion, etc.
Ils n'ont pas encore peur.
Ils sont en train de nous entraîner vers la guerre civile, raciale, le racisme, le je sais pas quoi. Il va falloir qu'on arrive à dire une démocratie qui se porte bien. Alors, par exemple, je vais prendre un truc précis. Quand tu entends Gabriel Attal dire au MEDEF, mais il l'a redit depuis, dire il faut en finir avec le modèle social issu de 1945. Là, tu fais, mais pourquoi on a fait ce modèle social en 1945? Pourquoi c'est les communistes et d'autres qui ont porté la sécurité sociale au sortir de la guerre? Parce qu'on s'est posé la question de comment on fait une société, comment on crée un sentiment commun, comment on fait du politique avec ce bordel, le social n'en est pas exclu. Il y a un certain nombre de droits que tu donnes aux citoyens, bah, ça doit être aussi des droits sociaux, et il faut créer des institutions qui donnent les moyens de ces droits sociaux. Donc moi, quand j'entends des gens qui disent, comme Gabriel Attal, mais c'est pas le seul, j'entendais une autre, je vais pas dire son nom, parce que j'allais la sortir d'une insulte, mais dire... c'était dans C'est ce soir avec Karim Rissouli, je sais pas si vous connaissez, elle disait... La démocratie est forcément déceptive parce que, évidemment, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et il est écrit nulle part, en fait, que tout le monde doit être gagnant. Et évidemment, là, du coup, les gens sont fâchés. Mais bon, c'est ça la démocratie. Non ! Si tu veux un système démocratique avec des droits pour tout le monde, eh ben, faut la sortir de droits sociaux. Faut faire un système qui soit pas trop dégueulasse, qui écrase pas les uns pendant que les autres s'éclatent. Parce que sinon, ta société éclate. Et c'est ça la leçon. C'est ça la leçon qu'ont tiré les gens qui ont rédigé le programme issu du Conseil national de la Résistance. Et évidemment que derrière, ça fait 40 ans qu'ils nous sabotent tout l'héritage du CNR, mais dans les milieux patronaux, ils le disent, comme Gabriel Attal, ils disent il faut en finir avec l'héritage du CNR. Ils le disent directement. Ben ouais, mais c'était peut-être ça le ciment de notre vie sociale, c'était peut-être ça qui faisait que ça pétait pas. Et alors là, si tu sabotes tout ça derrière, soit ça pète, soit pour contenir quand ça pète, tu envoies les chars centaures, tu dis que c'est pas grave, on tape sur la gueule de tout le monde, et c'est un autre régime. C'est plus la République, c'est un autre régime.
Usul, en tout cas, je sens que t'es hyper chaud sur les impros, sur les imitations, j'espère que tu vas nous en faire plein. Ah
oui,
ce
j'ai
soir.
Fait Attal, ouais, je peux en faire d'autres.
Attal et même la dame de C'est ce soir là. Non, mais je pense qu'on va être nombreux à être d'accord avec toi ce soir, mais en même temps, on sent bien à quel point cette histoire de juste 2%,
ben,
juste
c'est ridicule.
1800 personnes, déjà ça crispe énormément sur les plateaux télé. Et ce que je veux dire, c'est que si on veut construire un monde plus juste, il va falloir quand même convaincre les autres, et notamment les gens qui ont les moyens de faire en sorte que ça n'arrive pas. Du coup, puisque avec Loumi, vous êtes très porté sur la critique média, qu'est-ce que vous avez pu voir peut-être ces derniers temps, Loumi, je te pose la question, à propos de cet axe Zucman, justement, sur comment est-ce que c'est présenté alors qu'on parle que de 2%? À quel point est-ce que l'offensive réactionnaire en face, elle est très solide ou pas? Ou est-ce qu'on est en train de réussir à gagner au moins sur ce thème-là?
Presque tous les médias, déjà, sont aux mains des milliardaires, ça on le sait. Je crois que c'est 9 milliardaires qui ont quasiment la totalité de nos médias et qui en rachètent de plus en plus tous les jours. Là encore hier, je crois que c'est Brut qui a été racheté par...
Ça a des sur Brut.
Voilà. Tous les jours, ils rachètent des choses.
Et le Parisien risque d'être...
Le Parisien peut être racheté effectivement par Bolloré. Donc déjà, ça explique pas tout, évidemment, hein, parce qu'il y a énormément d'autres choses, évidemment, l'idéologie de la plupart... Alors là, principalement sur la télévision, mais même on peut le voir dans la presse écrite, à la radio, etc.
Et Mathieu Pigas qui rachète tous nos humoristes. J'aimerais qu'on en parle aussi. Pardon, j'arrête.
Non, mais évidemment, il y a ça. Et donc, en fait, il va y avoir une défense des milliardaires, bah, parce que c'est leur patron, évidemment, mais aussi parce que c'est leurs intérêts de classe, parce que c'est des bourgeois aussi qui s'adressent à nous, et c'est eux qui défendent aussi leur statut, qui défendent leur classe, en fait, tout simplement, et qui sont prêts à aller extrêmement loin pour ça. Et on l'a vu, ils sont terrorisés, en fait, quand les gens commencent à avoir des demandes sociales, des demandes de justice fiscale, même quand on demande un minimum, ça les terrorise. Quand les gens se mobilisent, ça les terrorise. Et en fait, pour eux, il ne faut rien bouger, comme tu dis, même il faut tout détruire de plus en plus, en disant oui, on réforme, de toute façon, tout ça, c'est vieux, il faut passer à autre chose, il faut absolument faire des réformes et tout changer. Et parce que vous voyez le reste du monde, etc., etc. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on ne peut pas compter sur le système médiatique, et on voit par contre qu'on peut les faire trembler très, très vite, comme beaucoup de politiques aussi, et comme ce patronat, comme toute cette bourgeoisie, on peut vraiment les faire trembler très vite. Mais pour ça, on ne peut pas demander des toutes petites choses. Je ne parle pas que de la taxe du pain, je parle de en général, il faut vraiment que nous, si on veut négocier quelque chose, et on parle encore de négociation, on est gentil, parce qu'on pourrait aller chercher justement ce qu'on voudrait récupérer. Pour le coup, il faut qu'on demande beaucoup, quoi.
Emilio.
Mais... En fait, le contexte que tu décris, Loumi, il fait que la gauche se retrouve quand même dans une posture en permanence défensive à devoir réclamer, à gratter à la porte pour avoir 2%.
Oui, mais ça, c'est justement possible.
Alors qu'en réalité, si on compare de façon totalement factuelle, on prend le programme du Nouveau Front Populaire. Le Nouveau Front Populaire, il n'a pas un programme non plus qui renverse la table et qui renverse le capitalisme. Il est moins important, il est moins radical que celui de François Mitterrand en 1981. En fait, il faut quand même qu'on se rende compte de comment le libéralisme a aussi emmené, a été, la gauche a été forcée en fait de s'embarquer avec le mouvement du capitalisme. Et en fait, c'est ça, c'est là-dedans que se cristallise la difficulté du Parti socialiste. Parce que le Parti socialiste, pendant des années, qu'est-ce que c'est le socialisme ? C'est, on va pour redistribuer les gains de la croissance en espérant pouvoir faire accepter à ceux qui sont opprimés le système capitaliste, parce qu'en fait, en leur disant, vous aussi, vous êtes gagnant. Sauf que le problème, c'est que ce système capitaliste, il fait de moins en moins de gagnants. Et donc, le Parti Socialiste, il se retrouve un peu en carafe. Il est là, en train d'essayer de tirer, de gratter. Mais en fait, ça ne marche pas, puisque les libéraux ne veulent même plus rien leur accorder, même pas 2 petits pourcents sur 1 800 milliardaires. les 1800 fortunes, ils ne peuvent même plus avoir ça.
Je voulais vous demander à tous les trois comment vous voyez la suite dans les mois qui viennent. Est-ce que vous pensez que le Cornu va tenir? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une dissolution? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à négocier quelque chose soit avec le RN, soit avec le PS? Comment vous voyez les choses?
Je pense qu'il va tenir avec le RN. Point de... voilà, point.
Ok.
Voilà. Et que ça va se poursuivre. Moi, je vais rebondir juste sur le programme du NFP. Le programme du NFP et même la taxe Zuckman, et même ces trucs-là. En vrai, on gagne du temps. Et ce qui est intéressant dans le programme du NFP, c'est en fait ce qu'il nous faudrait, c'est avoir le pouvoir. Ça ne changera pas la donne, fondamentalement. C'est-à-dire qu'on continuera. Vous imaginez bien que n'importe quel Premier ministre NFP arrive, que ce soit Jean-Luc ou qui que ce soit, arrive au pouvoir, il se fait pilonner sur tous les médias privés, mais tous, mais de Bouygues à Femme Actuelle. Hein, ça va être bourrin. Et ça va être très, très compliqué d'exercer quoi que ce soit. Par contre,
oui, mais on pourrait changer des trucs comme l'ARCOM, on pourrait effectivement prendre d'autres décisions qui pourraient être.
Ça donne quelques pouvoirs pour justement désamorcer des pouvoirs que la bourgeoisie a dans les médias, dans la mainmise qu'ils vont avoir sur quelques trucs. Il va falloir dérégler leur machine. On va pas dérégler le capitalisme avec le programme du NFP. On va faire du palliatif, et il faut le faire. Il y a plein de choses à faire qui sont de toute façon urgentes. Remettre à flot certains services publics autant que faire se peut, retaxer un petit peu, mais ça inverse pas la vapeur. Mais il faut le faire, mais ça inverse pas la vapeur. Là où il faut inverser la vapeur, si jamais la gauche à un moment arrive au pouvoir, à la gauche que vous avez vue sur cette scène tout à l'heure, hein, je parle de cette gauche-là, c'est qu'il va falloir mettre au pas l'influence des capitalistes sur notre vie politique. Dans les médias, dans les lobbies, dans tout ça, il va falloir arriver à créer une étanchéité entre le... Mais non, mais vraiment, ça, c'est l'urgence. Parce que ça, c'est la bataille d'après. Et que sinon, on est condamné à... Mais vous les voyez autour de nous, les soi-disant... Enfin, les démocraties libérales se faire rouler dessus, voire renverser. Parce qu'à force d'être libéral, en disant tout s'achète... Bah non, tout s'achète peut-être pas. Il va falloir qu'à un moment, on sanctuarise 2-3 trucs... Les médias, l'éducation, la santé, et qu'on redise non. L'éducation nationale aussi. L'éducation, il va aussi falloir re-sanctuariser plein de choses. Enfin bon, moi, voilà. Donc, la tâche urgente du NFP, en effet, le NFP aurait peut-être pas les moyens de directement faire la politique dont le pays a besoin vraiment, c'est-à-dire saper le pouvoir économique de la bourgeoisie, mais au moins saper son pouvoir politique. Ça devrait être son urgence. Voilà.
Alors, de toute façon, on va poser pas mal de questions politiques à notre...
Et on en parlera avec Corbière, je pense.
Avec Alexis Corbière tout à l'heure. Évidemment, il va y avoir aussi 2 autres personnes qui vont venir témoigner des luttes en cours. Loumi et Emilio, dans votre boule de cristal, qu'est-ce que vous voyez par rapport aux semaines à venir? On a entendu tout ce que disait Usul sur l'importance de gagner la bataille politique sur le fond. Qu'est-ce qui peut nous attendre dans les semaines à venir?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas tellement qu'en dire parce que, voilà... À part faire un peu du commentariat, etc., je ne saurais pas vraiment. Effectivement, je suis assez d'accord. De toute façon, on ne peut rien en espérer. Il faut rien en espérer. Je ne vois même pas comment on peut avoir pu envisager d'attendre quelque chose, comme on a pu se dire « Ah, bah peut-être qu'on aura droit à ceci ou cela ». Effectivement, le programme du NFP, encore une fois, c'est rien, quoi. On demande peut-être des bases, ce qui devrait être des bases, juste de... On demande de protéger des choses qu'on a déjà. Mais qu'en fait qu'on a tout perdu, on est en train de tout perdre, donc on est en train d'essayer de récupérer des trucs qu'on perd, et donc effectivement il y a non seulement garder ce qu'on a, mais aller chercher de nouvelles choses le plus possible, le plus loin possible, et là pour le coup il faut vraiment, enfin je vois pas en fait, malheureusement je vois pas comment ce gouvernement, enfin Là, les gouvernements actuels, alors, il y a la question de est-ce que Macron, pas Macron, etc. Mais c'est aussi plus profond que ça, quoi. C'est vraiment, est-ce qu'on veut, voilà, rupture et tout ça, est-ce qu'on veut sortir aussi vraiment de ce système néolibéral ou pas? Et là, vraiment, qu'est-ce qu'on demande? Et il faut qu'on le demande très très fort si on veut en partir. Et je pense que c'est urgent qu'on en sorte quand on regarde la situation actuelle, quand on pense à l'international, etc. Et voilà, qu'on se mette aussi peut-être dans cette lutte internationale, qu'on essaie de changer pour le coup profondément le truc. Je dis pas que c'est facile, hein, mais clairement, on n'a pas la solution immédiate. Mais pour le coup, là, ce qui va se passer dans les semaines à venir, j'avoue que, entre guillemets, ça m'intéresse pas tellement. J'ai envie qu'on aille plus loin, qu'on aille voir plus loin que ça, quoi.
Emilio.
Bah, j'ai pas de boule de cristal, mais alors je suis pas d'accord avec Jules. Moi, je pense qu'il va y avoir une dissolution assez rapide parce qu'en réalité, je vois pas comment le cornu tient. Je pense que, au vu du niveau de défiance en réalité dans le pays pour la politique macroniste,
je crois pas qu'il est prêt à tout céder au RN.
Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, il prépare déjà la dissolution et qu'il parie sur la division de la gauche, justement pour essayer de se refaire la cerise, ou alors de mettre carrément le RN au pouvoir en essayant de jouer le résistant depuis l'Élysée. Ça, pour moi, j'ai pas de boule de cristal, mais je vois les choses comme ça. Par contre, il y a aussi ce qu'on peut espérer. Et on a eu les prémices avec le 10 septembre. Ce qu'on peut espérer, c'est quand même un mouvement social d'ampleur. Ça a commencé et on sait très bien que la gauche n'a arraché des victoires que grâce aux mouvements sociaux. Et donc, il y a le 18 et ça va recommencer le 18 et ça continuera plus tard. Il y a une marche climat aussi à la fin du mois parce que le climat, on n'en parle plus jamais, 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 jamais. Alors que c'est quand même ce qui nous menace. On l'a encore vu cet été. Et donc, c'est comme ça que les choses pourront bouger parce que c'est comme ça que ça a toujours été.
Mais de toute façon, on va dire qu'il y a quand même... Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire pour autant, mais est-ce qu'il n'y a pas un boulevard qui s'ouvre là pour la gauche entre, effectivement, le 18 et la nécessité qu'il y ait un mouvement populaire qui puisse s'installer? Moi, c'est vraiment le 10 septembre et là, potentiellement, le 18, ça m'a vraiment fait penser aux Gilets jaunes, mais avec tout de suite les syndicats, avec tout de suite les partis politiques qui s'investissent et donc cette envie viscérale d'aller dans la rue pour dire stop, je n'en peux plus. J'ai l'impression qu'il est là, ce mouvement, et ça... Mais pour la gauche, mais c'est du pain béni. Il faut réussir à faire en sorte de se nourrir de ce mouvement-là pour réussir à faire quelque chose derrière. Et n'oublions pas que dans quelques mois, il y a les municipales. Et les municipales, c'est aussi ça qui donne de l'argent aux partis. C'est aussi ça qui permet de changer concrètement les choses, le quotidien des gens. Est-ce que ça, c'est pas un formidable motif d'espoir de se mobiliser pour réussir à changer les choses, finalement, à courte durée, avec les municipales en ligne de mire?
Il faut à tout prix que ce mouvement il dure le plus possible. En fait, c'est ça. Nous, on est en train de faire la fête, donc j'arrive pas à savoir en fait ce qui se passe. Je regarde un petit peu dans les boucles et tout ça. Donc moi, voilà, région lyonnaise du coup, et je vois que ça se mobilise toujours, qu'il y a toujours des AG, qu'il y a toujours des marches et tout ça. Et c'est vrai qu'à la fois on est content de faire la fête ici, et en même temps ça fait culpabiliser aussi de pas être sur le terrain, de voir un petit peu tout ce qui se passe. Mais c'est chouette de voir que ça a pas retombé. J'ai l'impression que si on regarde les médias, ça nous donne l'impression que c'est tout de suite retombé. C'était le 10 et hop, on passe à autre chose. Moi, je crois pas. Enfin, en tout cas, en région lyonnaise, il y a des trucs qui se font. Et pour le coup...
Il y a plein de Lyonnais, apparemment.
Et non, pour le coup, c'est ça qui est super important. C'est ce qu'on disait. C'est-à-dire, on peut pas faire tous les samedis ou tous les mercredis ou voilà une fois par semaine. Il faudrait qu'on puisse que ça dure en se relayant, évidemment. On sait très bien que tout le monde ne peut pas être mobilisé tous les jours, mais on se relaie les uns les autres et que ça dure le plus possible et qu'on soit vraiment sur la durée tous les jours sur le terrain et jusqu'au 18, mais après et en fait jusqu'à ce qu'on décroche quelque chose. Et on voit bien aussi que le fait qu'il y ait entre guillemets, enfin que à la fois on soit organisé, mais qu'en même temps ce soit des mouvements entre guillemets désorganisés, c'est-à-dire que la préfecture ne peut pas vraiment contrôler, etc., ça les terrifie, c'est-à-dire que ça se passe dans toute la France, ça se passe, on a vu en tout cas dans les grandes villes, dans toutes les rues, c'est pas les manifestations classiques et tout ça, et ça, bah, ça la police, ça la déstabilise, les politiques, ça les fait flipper, et c'est hyper important, c'est vachement bien ce genre d'action, il faut vraiment qu'on les mène le plus possible et le plus fort possible.
Il y a aussi... Cet été aussi, on a vu quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui s'accélère, c'est la montée en puissance de l'extrême droite dans le monde. Aux États-Unis, on l'a vu en
Attends, Israël. On n'a pas fini sur le 10, si
on Non, mais après, on a des invités pour en parler avec des invités après.
Ah, merde.
Attends, c'est une super émission, vachement bien écrite et tout. Moi, je voulais t'interroger
sur... Tu l'arrêtes de tout casser.
Non, mais moi, je suis d'accord, j'avais des choses à dire.
Mais si t'as un truc à dire, vas-y. Si, j'avais un truc à dire pour donner de l'espoir, parce qu'il y a des gens, là, il y a des gens qui sont en lutte et tout. Vas-y. Je voudrais juste dire un truc. C'est que ce qu'on est en train de vivre là, cette lutte là, c'est la lutte contre quelque chose qu'on n'a pas résolu. T'as la chute du mur, les espoirs qui s'effondrent, etc. Et la première grosse baston, et les anciens s'en souviennent, c'est 95.
Ouais.
C'est-à-dire, ça commence à déglinguer les services publics, les régimes spéciaux. Ça, c'est l'avancée du néolibéralisme. À l'époque, ça recule un petit peu, hein, c'est ce Juppé, c'est le début de Chirac. Et puis ensuite, t'as d'autres luttes, les mouvements des chômeurs, les mouvements des... Le mouvement social se reconfigure, c'est plus le PCF à ce moment-là, en effet, qui mène la charge principale. Le mouvement se reconfigure, puis t'as les altermondialistes. Et puis après, tu vas avoir d'autres luttes qui... Mais c'est toujours la même question, c'est toujours le même problème qui n'est pas résolu, qui est... Qu'est-ce que les capitalistes sont en train de faire à notre société? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à nos services publics, à nos conditions de travail, à nos salaires? Et ça, on résiste, on a mené plein de luttes. Certaines ont été victorieuses, d'autres non, les retraites, etc. Et là, on vit jamais qu'un autre épisode de cette même longue lutte qu'il y a 30 ans. Alors ça peut être désespérant, mais moi je me rassure souvent en me disant... Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ils vont pas nous avoir comme ça pendant encore 60 ans. C'est pas possible. À un moment, il y a un point de rupture. Ça fait 30 ans que nous, on lutte dans ce sens-là. J'ai bon espoir que cette lutte-là, du 10 septembre, elle est inventive, elle est nouvelle, elle est hybride. Il y a des choses qui viennent des Gilets jaunes, il y a des choses qui viennent du mouvement syndical, il y a des choses qui viennent de la rue, du mouvement étudiant, des gens qui crament des poubelles, des lycéens qui les mettent devant les portes de leur lycée pour les bloquer. Il y a une société qui est en tension. Et bon, il y a peut-être des marxistes dans la salle. Vous savez ce que c'est que les contradictions d'un système qui, au bout d'un moment, il faut bien les résoudre. Voilà. Et ben là, pour moi, ça fait 30 ans qu'on est en train d'essayer de résoudre les contradictions de ce système. On a fait tout, on a fait Occupy Wall Street, les indignés, les machins. C'est toujours la même question qui est posée. C'est le rapport entre le capital et la société. Eh ben peut-être que cet épisode-là, il est dans cette longue lutte-là. C'est peut-être pas l'épisode dernier. Par contre, il pousse toujours dans le même sens. Et on n'est pas mort, on n'a pas dit non. Et on va continuer à dire non. Et heureusement qu'on est là, et bravo à tout le monde. Et on va y arriver, on va y arriver. Abattez la citadelle. Ça, c'est gratuit. Ne cédez sur rien.
On va en reparler du 10 septembre avec des personnes qui luttent et qu'on va recevoir sur le plateau. Mais avant ça, je voulais quand même vous entendre tous les trois sur l'international fasciste. Ça aussi, c'est quelque chose qui monte de plus en plus. On le voit aux États-Unis avec les dingueries de Donald Trump. On le voit peut-être de manière concentrée avec Netanyahou en Israël et ce qu'il fait à Gaza. Quel regard vous portez sur l'été qu'on vient de passer du point de vue de l'international fasciste?
Eh ben, le capital, on sait qui le capital soutient lorsque le capital a à faire un choix. C'est-à-dire que dans tous les pays où concrètement ce qu'on appelle les capitaines d'industrie, les géants de la tech, etc., eh ben, dès qu'ils ont à faire un choix entre Hitler et le Front Populaire, ils choisissent systématiquement Hitler. Voilà, c'est ça la leçon de l'été. Et on le voit avec Donald Trump, on le voit avec Netanyahou, on le voit avec Viktor Orban. C'est la même chose en Argentine, c'est la même chose partout, systématiquement. Et le problème, c'est qu'on commence à le voir en France. On a des gens, lorsqu'ils sont revenus de l'investiture de Trump, qui s'appellent Bernard Arnault s'est dit « Ah, mais c'est quand même pas mal, il y a un vent d'espoir qui souffle aux États-Unis ». On la voit, la bascule. Je sais que c'est le livre de l'été, tout le monde en parle. D'ailleurs, il sera là demain matin, c'est Johan Chapoutot, « Les irresponsables ». Comment une société bascule? Il y a des similitudes. On n'est pas dans les années 30, mais il y a quand même des similitudes. Et là, c'est la tech. Aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, c'est eux qui décident, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont la main sur le débat public. Les milliardaires, ils achètent les médias, ils ont la main sur le débat public. Et donc, l'international fasciste, c'est comme ça qu'elle continue à vivre.
Et les géants de la tech qui ont fait le baise-main à Donald Trump, d'ailleurs.
Oui, non, mais exactement. C'est Zuckerberg, c'est Musk, etc. Parce qu'en fait, ceux qui leur offrent des perspectives de continuer à gagner, de continuer à s'enrichir, et en réalité, parce que c'est ça l'objectif des capitalistes, évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Parce que la gauche, elle veut leur prendre. Donc, qui est-ce qui leur permet de continuer à accumuler alors que la plupart des gens subissent ces répressions? Eh bien, ce sont les fascistes, parce qu'eux, ils répriment davantage et qui permettent de maintenir un système. Voilà.
Et d'ailleurs, juste une incise. Avant, je fais juste une incise là-dessus parce que. On parlait vous avez vu cette vidéo où vous voyez tous les plus grands patrons, les mecs les plus riches du monde, en train de dire à Donald Trump qu'il est génial et lui dire merci monsieur Donald. T'as des impressions de Corée du Nord complètement folles avec l'autre derrière qui est là, bravo notre grand leader, vous nous avez permis de... Et c'est les mecs les plus puissants du monde. Et chez nous, on vient nous dire que l'État n'est pas capable de leur faire payer un peu d'impôts. Là-bas, il leur fait lécher les pompes de... Mais c'est pareil Poutine avec ses oligarques. C'est-à-dire, à un moment, ces gens-là, comment ils font de l'argent, ces milliardaires? Si ce n'est en pillant l'État et en les... Et pour ça, il leur faut des complices dans l'État. Quand l'État leur dit stop, quand l'État les met à genoux, et ils se mettent à genoux, en fait. Et ça, c'est aussi une leçon du trumpisme. C'est que les milliardaires, ils sont pas partis, ils partent pas. Ils vont à la gamelle. Et la gamelle, c'est l'État. Et la gamelle, c'est nous. Donc, voilà, celui qui tient l'État, il tient aussi ses milliardaires.
Loumi.
Non, et l'internationale fasciste, elle va aussi beaucoup avec des choses très concrètes, des politiques vraiment de suprémacisme, des persécutions racistes. Il y a des conséquences réelles qui sont, enfin voilà, qui touchent énormément de monde, les personnes trans, les femmes. On voit qu'il y a de plus en plus de droits qui sont détruits. Et ça va très 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 vite. Voilà, je parle évidemment même pas du régime de Netanyahou. Voilà, enfin ça dépasse absolument tout. Ils se soutiennent tous les uns les autres et ils sont tous complices avec ça. Et il y a aussi, ça s'accompagne aussi de une véritable persécution des opposants politiques qui va de plus en plus loin. Et évidemment, bah, de tout ce qui ressemble un tout petit peu à quelque chose de gauche. Et on le voit encore plus là ce week-end. Enfin, ça n'arrête pas. Et la France accompagne ça très bien, hein, d'ailleurs, de criminaliser de plus en plus les personnes de gauche, tous les opposants politiques, toutes les personnes. Ça, c'est un peu critique. On ne parle pas des communistes, on parle juste de, voilà, des personnes qui vont essayer de dénoncer ces choses-là. Non seulement il y a volonté de les faire taire, mais aussi de plus en plus, en fait, de, oui, quand je dis persécuter, c'est les enfermer, il y a des déportations, il y a toutes sortes de choses. Et ça va très très loin, en fait. Et ça va très très vite.
Et on a l'impression que face à ça, l'Europe est complètement coincée, alors que ça devrait être l'identité de l'Union européenne, la défense des droits humains et la démocratie. On a une Europe qui est coincée, qui n'ose pas emmerder Benjamin Netanyahou, qui n'ose pas emmerder Donald Trump, qui ne sait rien dire, qui ne sait rien faire. Au contraire, qui va faire le baise-main à Donald Trump, comme l'a fait Ursula von der Leyen avec la négociation des accords de libre-échange. Donc...
Mais en réalité, en Europe, il y a une marche à suivre, et c'est pas des gauchistes, c'est l'Espagne. L'Espagne, ils prennent des mesures, ils font ce qu'ils peuvent, dans le contexte qu'ils ont... Voilà, je tenais absolument quand même à avoir un mot sur Gaza, parce qu'on parle de l'international fasciste, on la voit concrètement à l'œuvre avec un génocide qui est en cours. Et il faut en parler, parce qu'effectivement la France s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. C'est une bonne chose, c'est ce qu'on réclame, mais il ne faut pas qu'on oublie que ceux qui le réclament depuis le départ, c'est nous, c'est ici, c'est à la fête de l'UMA. D'ailleurs, c'est la gauche qui le réclame. Parce que la gauche, elle a compris que pour l'obtenir, c'est par le rapport de force. Alors elle le fait avec ses moyens, et donc c'est pour ça que je veux avoir une pensée aujourd'hui pour ceux qui essayent de briser le blocus à Gaza, ceux qui sont sur la flottille de la liberté. J'ai un collègue qui s'y trouve, Emilien Urbach, il n'est pas tout seul. Ils sont attaqués. C'est difficile. On sait que c'est symbolique, que ça ne changera pas tout. Mais c'est grâce à ça qu'on met la lumière aujourd'hui sur ce qui se passe, et pour arrêter ce silence coupable. Parce qu'aujourd'hui, on doit agir, et merci à vous ici, parce que c'est la fête de la Palestine aussi, et merci à tous ceux qui êtes là, et tous ceux qui crient Free Palestine, merci.
Et j'en profite pour dire que Adèle Haenel sera en direct sur la fête de l'UMA demain, depuis la flottille de la liberté. Donc vous pourrez demain écouter Adèle Haenel en direct. Et juste, je rebondis sur ce que tu dis, Emilio, parce qu'effectivement, ce qui se passe en Espagne, donc avec ce gouvernement d'alliance de gauche, c'est même pas les plus radicaux, hein, mais par contre, ils sont en train de prendre une série de mesures pour faire en sorte que, par exemple, il y ait du boycott des produits des colonies, tout un tas de choses. Là, peut-être que si vous suivez le sport et la Vuelta, ils poussent pour faire en sorte que l'équipe israélienne soit exclue. Et en fait, moi, ça me rappelle, alors j'étais pas née à ce moment-là, mais quand même, ça me rappelle l'apartheid avec l'Afrique du Sud. Évidemment, on voit bien ce qui se passe, à quel point, enfin, l'Ukraine, etc., et à quel point est-ce que les pays européens ne se positionnent pas du tout de la même manière. Et ben, l'Espagne, c'est un très bon exemple porteur d'espoir de, finalement, c'est pas si difficile que ça de prendre des positions, et un gouvernement de gauche, et ben, ça fait ça aussi, et ça fait du bien.
Non, et puis moi je voulais, enfin, l'international fasciste, c'est aussi en France. La France n'est pas une île, la France n'est pas extérieure, et en France on a un péril massif qui est l'extrême droite, qui est le premier parti de France, le Rassemblement National, qui est loin devant dans les sondages, et c'est quelque chose qui devrait mobiliser la société par-delà les militants antifascistes qui sont le public de la fête historique. On a je trouve quelque chose qui menace de manière grave, on le voit dans les médias, on le
et
voit
on
avec
a Retailleau qui a déjà commencé les persécutions racistes et tout, ça
ouais,
a déjà
commencé. Raf.
Les rafles, ah ouais. Ouais. Donc il faut se battre, et on continuera à se battre, évidemment.
Attends, moi aussi je veux dire un truc sur les fachos. Je peux ?
Vas-y.
Non, parce que moi par exemple, je trouve l'Europe est en dessous de tout sur la Palestine, il n'y a pas à chier une seconde. Encore que, bon, il y a eu des réactions, temps en temps, t'as Macron qui se réveille, qui dit on va faire un truc à un moment, on va faire un truc. Ouais, ok. L'Espagne et quelques autres, quand même, font le boulot. Mais globalement, c'est pathétique et t'as honte que ce soit ça, nous, notre modèle. Et là, je sais pas, le dernier truc où je me suis dit, mais vraiment, mais jusqu'où on va aller dans le déshonneur, c'est. On fait un communiqué, on va en parler juste après à mon avis. On fait un communiqué au Quai d'Orsay là pour dire que Charlie Kirk, la mort de Charlie Kirk, on est triste.
Explique qui est Charlie Kirk parce que tout le monde ne sait pas.
Je pense qu'ici tout le monde sait que Charlie Kirk n'avait aucune responsabilité au gouvernement d'où que ce soit. Charlie Kirk est un influenceur d'extrême droite américain, certes proche du Trumpisme, etc. Le mec, en effet, il s'est pris une balle, sans doute par un autre maga d'une autre branche, mais enfin bon, on verra plus tard, mais apparemment, c'est plutôt parti pour ça. Et alors, nous, au nom de la liberté d'expression, de je sais pas quoi, on a fait un communiqué officiel Quai d'Orsay, machin. On est très triste. Alors, les fachos sont même allés jusqu'à demander à ce qu'il y ait une minute de silence dans le Parlement européen. Faudrait peut-être pas non plus... Faudrait peut-être pas non plus pousser. Mais je me suis dit, ça dit beaucoup de... parce qu'il faut voir comment Charlie Kirk parlait notamment de l'Europe. Hein.
Ouais.
Ça dit beaucoup de notre vassalisation. Est-ce qu'on est vassalisé, vraiment? Est-ce qu'on est des chiens des États-Unis? Et s'il se passe un truc, on chiale pour eux. Ils ont beau nous traiter comme un paillasson, on va continuer à... Alors même que... Et même à faire un mot officiel de notre gouvernement... Pour un influenceur d'extrême droite, on fait ça maintenant, nous? C'est très, très bizarre. Donc, on est pris en sandwich entre cette espèce de, oui, de vassalisation qui est en partie aussi économique. Hein. On est vassalisé parce que qu'est-ce qu'on fait sans les GAFAM? Est-ce qu'on est autonome sur un certain nombre de points stratégiques, y compris de notre économie? Et à côté de ça, on a Poutine. Alors là, on comprend un peu mieux, quand même. Hein, parce que c'est quand même un peu plus évident que c'est un méchant. Lui, il s'attaque directement à nous. Il nous fait des faux tags chez nous. Là, récemment, il y a les affaires de têtes de porc là, qui ont été retrouvées un petit peu partout. On a retrouvé, apparemment, c'est plutôt signé 4-16, le truc. Et là, on voit un peu plus. Mais alors, sur les États-Unis, donc on est pris en étau par les fachos américains. Et les autoritaristes poutiniens, là, je sais pas quoi. Est-ce que l'Europe, ça veut encore dire quelque chose? Est-ce que notre modèle, est-ce que faire des grands mots sur nous, quand même, c'est la liberté, c'est les droits de l'homme, c'est je sais pas quoi, ça vaut quoi à l'épreuve des faits? Donc là, il y a un sursaut.
Mais Usul, je te propose qu'on continue d'en parler avec les... Je ne veux pas te couper, mais termine ta phrase, mais il faut vraiment qu'on en discutera après.
Et y compris en France. En France, il y a plusieurs moments où on a su réagir là où d'autres n'ont pas réagi. Je pense aux années 30 où nous on ferait le Front populaire pendant que d'autres font les fascistes. Je pense même aux années 80 où on va élire François Mitterrand à contre-temps, là où tous les autres sont partis en mode Reagan-Thatcher. Est-ce que la France, par sa culture politique particulière, par le fait qu'on a des trucs comme la fête de l'humain, allez, on continue à lécher le cul des gens qui sont là. Mais comme une culture de gauche solide, comme un mouvement ouvrier, comme un mouvement social, comme une culture de gauche vraiment solide dans ce pays, une culture révolutionnaire aussi, ne l'oublions pas, fait qu'on a une voix un peu différente. Est-ce qu'on va tenir bon? Est-ce que l'Union européenne va tenir bon aussi parce que la voix de la France va être différente de celle de certains de ses voisins? On l'espère et pour ça, voilà, on va s'arrêter là, mais ça demande...
Merci, monsieur.
On verra effectivement comment ça évolue.